Interview. 1. Interview.
Ok, le beurre.
Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Jean Burdin de l'association Drôle de Maman et Christine Reynaud, infirmière péricultrice, collaboratrice au centre de l'Aube du docteur Rennes. Ils sont venus introduire un cycle de week-end pour se préparer à la grossesse et à l'accouchement. C'est pas si facile d'être parent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous recevoir sur ce sujet aujourd'hui.
Donc peut-être avant même de commencer à parler de ces fameux week-ends, pourriez-vous nous dire comment vous pouvez aider les parents à mieux vivre le fait d'avoir des enfants, ou le fait d'en vouloir, le fait de les avoir? Quelle est votre méthode? Qu'est-ce que vous proposez en fait?
Alors la méthode, c'est surtout une approche on va dire un peu différente de la préparation à la naissance. Puisque la préparation à la naissance, très souvent, elle se prépare dans les dernières semaines et on se prépare à accoucher. Et que là, c'est une approche où on va se préparer à devenir parent. C'est-à-dire que toute la grossesse contient des expériences qui vont faire maturer les parents, et maturer pour accoucher et pour devenir parent. Voilà, donc c'est cette observation de ce qui se passe pour chaque femme dans chaque trimestre de grossesse qui a été mis en lumière. Et donc un accompagnement est né de cette approche faite par le docteur Rennes, voilà, qu'il a publié dans ses livres, entre autres. Et donc, ces week-ends existent depuis déjà de nombreuses années. Et la particularité de le préparer sur un week-end, c'est que ça permet aux couples, pendant 2 jours, de venir et de sortir de leur quotidien, de leur tracas du quotidien. Ils sont entourés, ils sont dans un beau lieu, et ils peuvent se centrer sur qu'est-ce qu'ils attendent de cet enfant, qu'est-ce qu'ils attendent de cette nouvelle famille, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs peurs. Et on va amener en même temps des éléments physiologique, bien sûr, puisque c'est une préparation, mais aussi un temps de réflexion personnelle sur l'expérience que l'on peut vivre, ou pas, puisque c'est un choix de chacun. On peut accoucher sans être forcément conscient de ce qui se vit pour le bébé et pour chacun des acteurs, ou alors on peut décider d'en faire la plus belle expérience de sa vie.
Alors, qui se sent concerné par ce genre de week-end? Ce sont des parents dont la femme est enceinte, ou c'est même préalablement, c'est juste au cas où, ou parce qu'ils cherchent à avoir des enfants? Qui s'engage à vos stages?
Alors, ça va être très varié. Le bouche à oreille marche beaucoup. C'est-à-dire que des couples qui sont déjà venus et qui l'ont vécu en parlent autour d'eux. Et donc, des amis, quand ils se retrouvent en situation d'attendre un enfant, se disent on va aller voir cette approche, puisqu'elle a l'air d'aborder un versant qu'on n'aborde peut-être pas forcément dans un cabinet. Voilà, et ça peut... Alors au départ, c'était sur le 3e trimestre que les couples venaient, et puis maintenant, ils viennent de plus en plus tôt, et on a aussi donc des couples qui viennent explorer un désir d'enfant, c'est-à-dire soit ils souhaitent un enfant, et puis la grossesse n'arrive pas, donc forcément, ça lève des douleurs. Donc on est là aussi pour les écouter, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, et expliquer aussi qu'est-ce qui se vit à ce moment-là, voilà, dans l'intime pour chacun, puisque c'est une préparation qui est quand même beaucoup basée sur le vécu psychologique en rapport avec la physiologie. Donc Jean, si tu veux compléter.
Sur le désir d'enfant, il y a aussi des couples qui viennent, parce qu'aujourd'hui dans une vie, un enfant c'est souvent un projet, la contraception a permis ça, donc... aujourd'hui, on décide d'avoir un enfant, donc on se pose la question avant de le faire. Et donc, il y a pas mal de questions qui viennent à ce moment-là et qui peuvent être traitées, non pas pour faciliter la mise en route, mais pour parce qu'à notre sens, les inquiétudes, il faut les traiter là où elles sont et quand elles sont là. Voilà, je veux dire, notre proposition va dans ce sens-là, en tout cas.
Alors, pour en revenir à ces livres et ces techniques mises au point par le docteur Rennes, tout à l'heure, je vous ai demandé des précisions sur votre méthode. Est-ce que vous pourriez un petit peu continuer à préciser ce qu'elle a de particulier, cette méthode?
Alors, cette méthode, elle vient, en complémentaire avec tout ce qui existe, et on ne prétend pas détenir une vérité, mais elle est basée sur l'observation et l'expérience du docteur Rennes et puis d'autres professionnels autour, où on s'est interrogé sur quel était le sens, des symptômes que vivent les femmes pendant la grossesse. Donc extérieurement, par exemple, sur le premier trimestre, bah, toutes les femmes ont envie de dormir, sont fatiguées ou peuvent peut-être avoir des nausées. Donc ça, c'est un symptôme extérieur. Mais intérieurement, qu'est-ce qui se vit ? Voilà. Et donc, en s'interrogeant dessus, on peut se rendre compte qu'effectivement, les nausées, ce n'est pas que des nausées physiques, c'est qu'il y a intérieurement quelque chose qui ne se digère pas, quelque chose qui ne passe pas. Et que dans le premier trimestre de la grossesse, on va dire, se vit une psychothérapie naturelle, hein, si on s'en saisit. Mais c'est comme si la vie proposait de revisiter le passé par les rêveries, par une hypersensibilité. Hein, c'est comme si elle proposait de faire un peu l'état des lieux des amours. Comment est-ce qu'on a traversé nos différents amours pour arriver plus propre et plus en paix avec son propre passé pour accueillir ce nouvel enfant et construire cette nouvelle relation d'amour avec cet enfant. Par exemple, ça c'est un des contenus forts du premier trimestre. S'apaiser avec son passé pour pouvoir mieux vivre le présent. Le deuxième trimestre, ça va être un trimestre qui est plutôt tourné vers l'instant. C'est-à-dire que dans le deuxième trimestre, les inconforts du premier trimestre sont un peu passés. La femme est plus dans une plénitude, je dirais. Et ça va être une sensualisation avec la vie. Elle perd aussi ses repères, c'est-à-dire qu'elle n'a plus les mêmes goûts alimentaires, les repos ne sont plus les mêmes. Il y a plein de choses extérieures comme ça. Et intérieurement, c'est comme si la vie apportait un apprentissage différent en disant « bon ben, je t'enlève tous tes repères ». Mais maintenant, comment est-ce que tu vas apprendre à fonctionner dans l'instant ? Et que cette préparation, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on la retrouve après avec l'enfant ? Parce que l'enfant, lui, quand il a faim à 2h du matin, lui, il n'a pas l'heure en main. Donc il va bien falloir apprendre à s'adapter à l'instant sans s'oublier soi-même, c'est-à-dire prendre soin de soi pour prendre soin de l'enfant. Ça, c'est la pédagogie du deuxième trimestre. Et puis le troisième trimestre, la naissance va bientôt arriver, donc est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prête ? Et que là, le rôle du père est primordial. Il l'est tout au long de la grossesse, mais peut-être encore plus au moment du troisième trimestre pour accompagner cet accouchement. Et que dans ce troisième trimestre, on va aller visiter qu'est-ce qui se passe pour la maman pendant l'accouchement et le travail. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Quel est le monde de l'enfant et qu'est-ce qu'il traverse dans cette épreuve? Parce que pour lui, c'est une épreuve. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour le père? Et que peut faire le père? Parce que le père a un vrai rôle à trouver. C'est pas seulement... couper le cordon ou passer le brumisateur, mais quelle est sa place ? Et quelle place chaque père aurait envie de prendre ? Donc voilà les pistes, on va dire, de réflexion que l'on pose au cours de ces week-ends.
Alors si je vous suis bien, vous proposez plusieurs phases d'accompagnement à des parents qui souhaitent conscientiser ce processus.
Tout à fait.
Et donc comment ça se passe ? Alors il y a plusieurs week-ends ?
Alors il y a un week-end tous les un mois et demi, deux mois. Et sur ces week-ends, des couples s'inscrivent en fonction de l'âge de grossesse. C'est-à-dire qu'il va y avoir des modules différents pour un couple qui vient sur un troisième trimestre, un couple qui vient sur un premier trimestre, ou un couple qui vient pour un désir d'enfant, ou un couple qui vient avec un enfant pour l'accompagnement du post-natal. Et donc, nous sommes une équipe de professionnels, dont je fais partie, qui avons été formés par UGREN pour accompagner ces couples.
Et alors, comment ça se passe concrètement ? C'est souvent des groupes de parole ?
Concrètement, c'est un week-end complet et donc on fait un peu de tout. Donc il y a des modules entièrement théoriques pour donner une base, pour donner un point de discussion commun au moins. Voilà. Il y a aussi des ateliers, je vais dire, pratiques, des mises en jeu. Pour moi, dans les très beaux outils qu'on propose, il y a un moment, au troisième trimestre, on propose aux parents d'écrire une lettre à leur enfant qui n'est pas encore né pour... lui dire ce qu'ils attendent eux, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils ont imaginé, puisque dans l'idée aussi de pouvoir après convenir de la réalité, il y a toujours l'écart entre ce qu'on imagine de son enfant et ce qu'il est vraiment, et de pouvoir dire à la fois j'ai rêvé et mon rêve il était beau, et mon enfant il est là et mon enfant il est beau, mais c'est pas la même chose. Donc il y a des outils comme ça très pratiques et puis c'est aussi un week-end de confort à notre sens et on y tient, nous, les drôles de maman qui organisons toute la partie matérielle, on y tient vraiment. Donc c'est un week-end où on prend le temps de manger, on prend le temps de faire la sieste, on prend le temps de faire de la relaxation, on prend le temps, on a la chance d'être donc à pied gros dans un endroit qui est très beau, donc on prend aussi le temps d'en profiter. On essaye d'en faire pour les couples des week-ends en amoureux dans lesquels ils aient le moins de choses à penser ou à traiter que... la grossesse ou que leurs enfants ou que la parentalité, que ce soit vraiment qu'ils puissent, comme un cocon, se centrer là-dessus pendant 2 jours.
Est-ce que vous avez des retours C'est pas facile à évaluer l'efficacité de votre action, mais des gens qui seraient passés par chez vous, qui vous auraient fait des retours, y en a-t-il ?
Oui.
De quelle nature ?
Oui, oui, on en a. On en a. Là, il me vient en tête où, par exemple, il y a quelques années, un couple était venu sur le troisième trimestre pour le week-end. Et donc, avait passé le samedi avec nous et le dimanche matin, ben, l'accouchement s'est présenté. Donc, ils sont partis à la maternité. Et le retour qu'ils ont pu nous en faire, c'est qu'en ayant vécu une seule journée et dans cette approche, leur couple était déjà différent et ils avaient vécu des choses beaucoup plus intenses ensemble qu'ils n'avaient pas imaginées. Voilà. Et puis, on a les retours, ben, comme je vous disais tout à l'heure, par des couples qui viennent. Parce que d'autres couples leur en a parlé et que vraiment ils y ont trouvé quelque chose d'important pour eux, en prise de conscience, en connaissance, en prise de décision, où ils se sont sentis vraiment pouvoir décider de quel accouchement ils voulaient en toute sécurité et en respectant le lieu, hein, puisque chacun peut accoucher où il veut. Mais réflexion sur, par exemple, la péridurale. Pourquoi j'en veux une ? Pourquoi j'en voudrais pas ? Mais c'est quoi la douleur ? Et à quoi elle sert la douleur ? Quel est le sens de la douleur ? Est-ce qu'on peut la dépasser ? Et que chacun puisse trouver sa propre limite. Donc des échos, on en a, bien sûr. Et nous, on aimerait que ça se sache de plus en plus et que chacun puisse venir puiser bah, comme un menu à la carte en disant bah, « voilà, moi j'aurais besoin de ça et je viens le chercher ici ».
Moi, je peux vous en faire un de retour, puisque avant d'être dans l'association, je suis venu de l'autre côté pour préparer la naissance de deux de mes trois enfants. Et ce qui m'y a amené, moi, c'était vraiment la naissance de ma première fille, où j'avais beau savoir techniquement plein de choses, j'étais pas d'un milieu où on ignorait ni les bébés, ni les accouchements, ni rien. Quand ma femme a accouché, moi, je me suis trouvé dans une salle d'accouchement et je me suis trouvé perdu, mais vraiment perdu, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, j'en ris, mais sur le coup, pas trop. Pendant l'accouchement de ma femme, il y a un moment, je lui ai dit « Respirez par la bouche, madame ». C'est ce que tout le monde disait dans la salle. Donc, il y a un moment, je me suis dit « Je vais faire comme tout le monde voilà, », pour vous dire à quel point j'étais perdu. Et ce que j'ai retenu de cet accouchement, ce que j'ai dit « Je ne veux plus que ça se passe comme ça. Moi, je veux y être et je veux comprendre ce qui se passe et je veux savoir. » Donc après... La différence entre les accouchements de mes différents enfants, c'est ça en fait. Il y en a un où je n'ai pas compris ce qui se passait et où j'étais très étranger, très, très loin de la réalité de ma femme, de la réalité de mon bébé, mais même de la réalité de l'équipe médicale qui était là. Et il y en a deux autres où j'étais là, voilà, où j'avais une place, j'avais des choses à faire, j'avais des choses à dire, j'avais un vrai rôle et où je me suis vraiment impliqué et donc j'ai vécu une autre expérience. Voilà, je crois qu'au final, c'est ça qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on ne change pas l'accouchement qui aura lieu. Il aura lieu comme il aura lieu et on n'y peut rien. Mais on change la perception que chacun peut en avoir. Voilà. Dans les retours d'autres personnes qui m'ont touché, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit à quel point c'était pour eux une belle expérience, l'accouchement qu'ils avaient vécu. Et en même temps, quand ils racontent le vécu médical, on se rend compte par exemple que c'était des accouchements qui étaient médicalement très complexes. Donc pas simples à vivre. Mais... La complexité médicale ne les a pas gênés pour vivre une belle expérience. C'est ça qu'on vise, nous, une belle expérience.
Vous avez parlé à plusieurs reprises du désir d'enfant. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ? Est-ce que c'est important de désirer son enfant ? Et quid des enfants non désirés ? Seraient-ils déjà un petit peu moins bien partis que d'autres puisqu'ils n'auraient pas été désirés ?
Bon, alors là, c'est un sujet philosophique très très vaste, le désir d'enfant. Mais ce que je pourrais en dire, c'est que de toute façon, dans notre inconscient, ou même dans notre consciemment, dans nos projets, le désir d'enfant, il est là, mais qui correspond pour chacun à quelque chose de particulier. Soit on n'en veut pas parce qu'on a peut-être une mauvaise expérience et qu'on ne veut pas reproduire ça, ou pour X raisons, ou soit on en veut à tout prix, et puis bah, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, et on est dans ces douleurs-là. Et puis ce dont on se rencontre aussi, c'est que quand on est en couple, bah, bien sûr qu'il y a l'amour qui est là, mais que c'est quand même deux personnes et que chacun a des désirs différents. Et que mettre en avant et en lumière les désirs de chacun, ça va être les fondements d'une nouvelle famille. Et que qu'est-ce que cet enfant va venir, quel est le but de cet enfant dans ce couple et pour chacun ? Donc plus on va en être conscient, plus on va soulager l'enfant à venir de ce qu'on lui met déjà sur le dos, ce qui va réparer pour nos histoires personnelles, je dirais. Donc le désir d'enfant, il se joue là aussi. Donc, et qu'on est aussi dans une consommation où, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est quand même un peu comme ça qu'on le sent, quoi. Faire des enfants, c'est avoir un enfant, quoi. Ça fait partie de quelque chose, c'est avoir un enfant. Nous, on est plutôt sur la dynamique de devenir parent. Et que devenir parent, c'est une croissance de maturité, parce que c'est l'enfant qui nous fait devenir parent et qui nous fait grandir. Donc c'est pouvoir mesurer cet aspect-là aussi avant. C'est pas anodin d'avoir un enfant. C'est pas à banaliser, parce qu'on s'engage quand même pour une vie. Un conjoint, même si on l'aime et que c'est le centre du monde pour nous, le jour où ça ira plus, il partira puis on en trouvera un autre, quoi. Un enfant, on est père et mère à vie.
Alors vous n'avez pas répondu directement à ma question, mais ceci dit, indirectement vous l'avez fait. C'est quand même mieux d'avoir un désir d'enfant plutôt qu'un enfant. Parce que vous savez, il y a des accidents qui peuvent arriver.
Mais bien sûr, mais oui.
Est-ce que l'enfant porte une charge, entre guillemets, plus inconsciente? Enfin, ça n'a pas été un processus volontaire, conscient, qui a abouti au fait qu'il vienne au monde. Tout d'un coup, il est arrivé. Est-ce que ça peut, d'entrée de jeu, faire en sorte que l'enfant il ait quelque chose en moins, ou je sais pas, ou en plus?
Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que de toute façon, quelle qu'elle soit, l'enfant porte une charge, que ce soit celle-là ou une autre. Nos enfants naissent de nous, donc que ce soit sur le désir d'enfant, sur une espérance qu'on a eue d'eux, ou de ce qu'ils allaient devenir ou pas devenir, c'est quelque chose qui porte. Nous, on essaye autour de ça de tenir compte de la réalité. Donc je veux dire, c'est pour ça, dans ce sens, que ce n'est pas mieux ou moins bien. Pour nous, la question, elle n'est pas là. Ce qui est important, c'est que ceux qui se posent la question aient une chance d'obtenir, d'explorer des pistes, d'obtenir des réponses, d'avancer quelque part, que cette porte soit ouverte. Ceux qui ne se posent pas cette question ont le droit de ne pas se poser de questions. Les enfants qui arrivent de façon impromptue, ils arrivent de façon impromptue. C'est chacun à chacun d'eux leur trajet de vie. Il n'y en a pas des mieux et des moins bien. Et par rapport à ça, c'est peut-être notre particularité des drôles de maman. Une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi vous êtes drôle, et une des réponses que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on est drôle parce qu'on est pour. On est pour l'accouchement à la maison, on est pour l'accouchement à l'hôpital, on est pour l'allaitement maternel, on est pour l'allaitement artificiel, on est pour la péridurale, on est pour l'accouchement sans péridurale. Nous, on est pour que les gens puissent vivre ce qu'eux, ils ont envie de vivre. Voilà.
Vous venez de parler de cette association Drôle de Maman. Quelle est son imbrication, son implication avec le Centre de l'Aube? Comment ça s'articule? Pourquoi j'ai cru entendre dire tout à l'heure que vous vous chargiez de la partie matérielle de l'organisation, des week-ends et autres propositions que vous faites?
En fait, l'association, elle est née de trois femmes qui avaient été accompagnées par le docteur Rennes dans la préparation à la grossesse, dans son cabinet d'exercice d'obstétricien. Et puis, qui se connaissaient pas. Et quand toutes les trois, elles ont accouché, elles se sont retrouvées avec un nouveau-né, et toutes les trois, elles l'ont appelé en lui disant « Bon, c'est très très bien ton truc que tu nous expliquais, mais maintenant qu'il est là, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Et il leur a répondu « Eh ben, vous montez une association et on continue ensemble. » Donc elles ont monté l'association, et du coup, le docteur Rennes a développé une approche avec elles, et puis avec ceux qui nous ont rejoints, une approche du post-natal, des différents âges de l'enfant, pour continuer cet accompagnement-là. Et donc, notre association, elle est construite de cette histoire-là. Et sur, particulièrement sur tout ce qui est préparation à la naissance et à l'accouchement, nous, on n'imagine pas pouvoir intervenir sans des professionnels. Nous, drôle de maman, on est des parents. Alors oui, je sais beaucoup de choses sur l'accouchement, mais il vaut mieux que ce soit une sage-femme qui le dise plutôt que moi. Donc du coup, il y a une collaboration très étroite comme ça entre les professionnels qui ont été formés à cette approche-là et nous, parents, pour justement ce double accompagnement où... pour les couples qui viennent nous voir, à la fois ils ont tout l'aspect métier, professionnel, et dans le monde dans lequel on vit, il faut le connaître, il faut savoir ce que c'est qu'une salle d'accouchement avant d'y aller, à mon sens en tout cas. Et puis aussi ils ont tout l'aspect de l'expérience. Nous parents, on peut leur dire ce que nous on a vécu, et on peut leur dire, on leur explique et gentiment par rapport aux professionnels que bon, ça c'est la théorie, ce que disent les professionnels, mais dans la réalité, les choses sont chaque fois différentes. Voilà, donc nous on témoigne de nos expériences et de notre usage des différents outils qui sont proposés pour continuer à avancer, ou comment nous on a vécu les accouchements de nos enfants.
Alors je vois sur votre prospectus que c'est drôle de maman et papa. Quand même, vous n'avez pas totalement oublié les papas. C'est bien, parce que souvent, les papas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils se sentent un peu de trop, c'est pas eux qui portent l'enfant, ils savent pas où se mettre, ils se demandent à quoi ils servent. En plus, après, on va s'occuper de l'enfant, le papa passera en deuxième. C'est pas facile d'être papa de nos jours, donc vous avez pensé au papa, et c'est tant mieux.
C'est exactement ça. L'association est née de trois femmes, donc elle s'appelle Drôle de Maman. J'y suis, moi, rentré assez rapidement et j'ai très, très vite dit je voudrais qu'elle s'appelle aussi Et Papa. Pour moi, il y a une vraie problématique autour du père, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, de sa place, et, qui est particulière à mon sens parce que le père, lui, ben, il ne va pas naître, donc déjà ça s'est réglé. Il n'est pas enceinte non plus, donc il n'a pas de contraintes physiques. La femme, quoi qu'il se passe, elle a une grossesse déjà, c'est physique, et elle va accoucher, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, ça va se faire. Et le père, lui, ben, il a toute latitude, il peut passer 9 mois à l'étranger s'il a envie. Il y a pas, donc il y a bien une place particulière que ça, cette liberté-là lui donne. Il a notamment la liberté de s'y engager ou pas. Il a la liberté de vivre ça ou pas. Et je pense que ces choses-là doivent effectivement porter et dire pour que chacun comprenne bien ce que chacun peut faire. Donc le fait que la mère accouche lui donne une contrainte physique qui fait que ça va se passer. Le fait que le père soit libre physiquement lui donne du recul sur l'expérience. Il n'aura pas de contraction, il n'aura pas de douleur, mais du coup, comme c'est, je vais dire, sa compagne qui accouche, de son bébé aussi, donc c'est un espèce de triangle amoureux, il est bien quelque part la personne la plus proche possible de ces deux êtres qui sont en train de vivre quelque chose, et donc ça lui donne une vraie place d'accompagnateur. Voilà, une des images qu'on utilise beaucoup, c'est qu'un accouchement, c'est comme grimper le Mont Blanc, ça se fait aussi avec un guide. Voilà. Et ça sert à quelque chose, un guide. Et c'est ça, pour moi, le rôle du père dans l'accouchement, en tout cas. Voilà, il a cette liberté-là et il peut vivre ça.
Oui, c'est tout à fait juste. Et moi, l'image qui me venait, c'est que, c'est vrai, et on le dit tout le temps comme ça, c'est que le père est le meilleur accompagnateur pour l'enfant à naître et pour la femme qui va accoucher, puisque c'est lui qui les aime le plus profond. Donc, quand on est dans l'amour et qu'on est vraiment à l'écoute de l'autre, eh ben, il va y avoir une communion, une sensibilité bien différente que si on est sur des choses extérieures, comme Jean nous témoignait pour son premier accouchement, où il savait, où il a appelé sa femme madame, quoi. Voilà, bah c'est cette distance-là qui se mesure aussi dans l'implication que chacun va mettre dans cet accompagnement et dans cette rencontre. Pour nous, l'accouchement et la naissance, c'est la même expérience, mais 3 acteurs différents qui vont la vivre. Et donc, c'est mettre tout, faire de son mieux, pour que ce soit vraiment une rencontre au sommet. Parce que quand on demande autour de nous, à n'importe qui, hein, mais quel est votre meilleur souvenir, très 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 souvent, c'est la naissance des enfants. Mais tout de suite vient derrière les rancœurs, les difficultés, les choses qui n'ont pas été bien. Voilà. Donc si on peut éviter ou aplanir ces rancœurs en amont, et ensuite, dans le post-natal, les rancœurs qui restent, les apaiser, plutôt que de les passer sous silence en disant « Non, non, mais tout s'est bien passé. » Non, 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 parce que l'enfant, eh ben, il est porteur de tout ça. Et c'est tout ça qui ravive aussi. Voilà.
Et peut-être je vais rajouter encore une chose. C'est, en tout cas, c'est ce que l'approche du docteur Rennes m'a appris, mais c'est ce que la vie m'a appris aussi. C'est qu'autour de la parentalité, il n'y a pas de ratage. On ne rate pas une étape. On peut savoir ou ne pas savoir, mais on peut faire ou ne pas faire. Mais moi, j'ai toujours rencontré une deuxième chance. J'ai toujours rencontré un moment où il y a quelque chose de mes enfants qui m'est revenu, où je les ai rencontrés dans une difficulté qu'ils avaient et où j'ai pu me dire « Ah bah oui, mais tiens, c'est normal parce qu'en fait, quand tu t'es occupé de leur accouchement, tu t'es pas occupé de ça. Ben, maintenant qu'ils sont grands, tu vas t'en occuper. » Voilà. Et donc, il y a quelque chose où on peut pas se tromper. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré d'apprendre ça.
Lorsque je vous écoute, j'entends une véritable volonté d'être responsable, ce qui est tout à votre honneur, parce que tout le monde malheureusement n'est pas comme ça. Il y a des parents qui se désinvestissent, qui justement qui ont cette distance avec leurs enfants, voire qui ne s'en occupent pas. Enfin, on ne peut pas parler des choses qui fâchent, mais ceci dit, bravo.
En même temps, ce ne sont pas des choses qui fâchent. Peut-être il faudrait se poser aussi la question dans l'autre sens. De quoi souffrent ces parents-là pour ne pas être en relation avec leurs enfants? Quelle est leur douleur à eux pour ne pas réussir à créer ou à maintenir ou à entretenir ce lien-là? Je pense que le problème, il est beaucoup plus large que la simple responsabilité du parent, en fait.
Je vais revenir par rapport à cette question de responsabilité, parce que justement, ça, moi, ça me fait lien avec ce désir d'enfant. Et pourquoi c'est important d'explorer ce désir d'enfant? Parce qu'avoir un enfant, c'est être responsable d'un être pendant de très nombreuses années, voire jusqu'à la fin de ses jours. Et à cet être, on est censé ne faire que du bien. Donc c'est quand même une lourde responsabilité. Donc est-ce qu'on la prend consciemment ou est-ce qu'on la prend à la légère? Et que si on a envie de faire au mieux et de chercher au mieux, eh ben, il peut y avoir des pistes à explorer et un accompagnement et des échanges avec d'autres couples qui vivent dans cette recherche et dans cette démarche. On est bien conscient qu'on ne s'adresse pas, entre guillemets, à tout le monde, puisque ben, des personnes ne sont pas dans ces préoccupations. Et ma foi, mais tout le monde est libre de vivre sa vie comme il le choisit.
Et tout le monde fait bien ce qu'il peut aussi.
Et tout ce qu'il peut, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais... nous, notre message, c'est que on voudrait vraiment dire qu'une autre approche peut exister, on peut s'interroger, il peut y avoir des solutions, voilà, et que et ben, l'association et le centre de l'Aube est là aussi pour accueillir toutes ces personnes-là.
Alors, dans votre prospectus, il y avait un autre petit fait qui m'a interpellé, c'est que vous parlez aussi de mieux vivre, vous parlez de mieux vivre avec son bébé. Donc, ouais. vous accompagnez aussi... l'après-accouchement, jusqu'à quel âge en fait ?
Mais en fait, mieux vivre avec son bébé, c'est que la préparation à l'accouchement, je dirais, a masqué quand même un fait, c'est qu'on se prépare à accoucher, et donc derrière accouchement, il y a douleur, donc il y a comment éviter la douleur, mais donc ça, c'est une partie, l'accouchement. Hein. Mais tout de suite, une fois que le bébé il est là, on devient parent, et il y a toute la parentalité à accompagner. Ça ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça que cette préparation, c'est vraiment une préparation à la grossesse, à la naissance et à être parent. Et qu'on sait professionnellement, et on le voit, que le post-natal est une période très fragile et très instable. Parce que c'est un nouvel équilibre à créer dans le couple, dans la famille. Il y a cet enfant à découvrir. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Parce que c'est quoi être maman et c'est quoi être papa ? C'est ça nos références personnelles, hein. Donc c'est tout un nouveau monde. Donc on a mis en place aussi un accompagnement du post-natal. Donc du post-natal précoce, sur ces mêmes week-ends naissance où les couples peuvent revenir avec leur bébé pendant les premiers mois. Et ensuite, c'est un accompagnement de la parentalité qu'a développé l'association des drôles de maman avec une entraide de parents. Des rendez-vous Skype pour les parents qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est des technologies modernes qu'ils ont mis en œuvre. Et le dernier, ce sont des drôles de vacances, c'est-à-dire mieux partager les loisirs en famille. Au centre de l'Aube, il y en a une, par exemple, cette semaine-là. Il y a une semaine de vacances où des parents viennent avec leurs enfants, accompagnés par les drôles de maman et par Ugraine aussi, avec des rendez-vous avec lui.
Et tout ceci est à la carte, c'est ça qui est remarquable ?
Complètement.
Ah ben, on travaille avec des êtres humains, ça peut pas être autrement qu'à la carte.
Non, mais vous auriez pu faire des sessions bien cadrées, ça se passe de telle heure à telle heure, de tel jour, etc. Enfin, je sais pas.
Alors, on a quand même des dates, tout n'est pas ouvert en permanence, on a aussi des vies professionnelles qui nous permettent pas d'être en permanence des drôles de maman et papa au service des autres en tout cas. Donc, tous les renseignements sont sur notre site, hein, vous les trouverez sans difficulté sur www.drôle-de-maman.com. Vous posiez la question de savoir combien de temps ça dure d'être parent et sur notre prospectus, il y a écrit 20 ans pour grandir ensemble et il y a quelques semaines, on était au salon Prime Vert et il y a une dame d'un certain âge qui s'est arrêtée, qui a regardé notre plaquette et puis qui m'a fait un clin d'œil et qui m'a dit 20 ans, c'est pas vrai, hein, ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà, donc après, on ne veut pas faire peur non plus, mais ça dure peut-être bien 70 ans d'être parent en fait.
Il paraît quand même que ça apporte quelque chose d'avoir un enfant.
Ah bah oui.
Je suis très précautionneux. Non mais je suis même exagérément précautionneux.
Mais vous êtes vous-même papa.
Je suis papa. Oui.
Donc votre expérience personnelle.
Effectivement, ça.
C'est une grande richesse.
Ça fait avancer.
Ça fait avancer, ouais. Mais il y a aussi des difficultés. Oui. C'est pas si simple d'être parent.
Et non, et effectivement, ça ne s'arrête pas. Très bien. Vous êtes effectivement à la pointe de la technologie. Vous nous avez parlé de Skype. Comment ça se passe ? Il faut s'inscrire dans une liste ? Il faut donner son numéro de téléphone ?
Alors, il faut envoyer un mail à contact@drôledemaman.com ou en passant par le site, vous retrouverez notre adresse aussi facilement. On a introduit Skype dans nos activités parce qu'on s'est rendu compte que mobiliser un week-end, c'était pas toujours possible pour tout le monde, qu'on intéresse aussi des gens qui habitent loin et... je me souviens de ce couple de Strasbourgeois qui est venu 3 fois, et donc je les admire, mais ils ne peuvent pas tous le faire. Donc toutes nos activités, tous nos week-ends donc de préparation à la naissance ou nos week-ends de parentalité ou de post-natal sont accessibles par Skype. Donc pendant qu'on fait le week-end, on peut aussi avoir un certain nombre de participants qui sont par Skype avec nous et qui suivent à la fois les modules, à la fois voilà, depuis chez eux. Et puis, du côté des parents, on a aussi mesuré qu'il y a un certain nombre de difficultés de la vie quotidienne, je vais dire, qui ne nécessitent pas qu'on passe un week-end, qui nécessitent juste un échange avec d'autres parents pendant un moment donné. Donc, on a créé des rendez-vous d'entraide trois fois par mois. Donc, les rendez-vous sont un peu compliqués, mais c'est le premier lundi, le troisième mercredi et le quatrième samedi de chaque mois. Toujours par Skype, et toujours le seul moyen d'y venir, c'est de nous envoyer un mail à contact à Drôle de Maman, et puis après on donnera les modalités techniques à ceux qui le souhaitent. Et donc cet instant particulier permet à chacun à la fois d'exposer une difficulté et d'avoir le retour des autres. Alors on ne donne pas de recettes, on ne donne pas de conseils, nous c'est des choses qu'on ne sait pas faire, mais on a peut-être traversé les mêmes expériences ou des expériences similaires, où on peut renvoyer à celui qui expose une difficulté ce qu'on entend de ce qu'il expose pour lui permettre de continuer à avancer. Voilà, dans sa recherche de solutions, parce que chacun est, je vais dire, son propre parent de son propre enfant et qu'on souhaite que ça reste comme ça. Et puis ces rendez-vous sont aussi importants parce qu'on se trouve aussi dans la situation de l'autre côté à proposer des solutions aux autres qui ont aussi des difficultés. Et donc il y a une espèce de prise de conscience que je trouve vraiment intéressante, c'est-à-dire que en tant que parent, bon, j'ai une difficulté, je m'en sors pas, et donc je pose la question, je vais chercher de l'aide. Mais trois minutes après, en fin de compte, c'est l'autre qui a une difficulté, et je me rends compte que moi, en fin de compte, je sais plein de choses. Donc d'accord, j'ai une difficulté, mais il y a plein d'autres choses que je sais et que je peux partager. Voilà, ce qui permet de remettre, je vais dire, un peu les soucis à leur place, parce que dès que ça touche nos enfants, comme on y tient, ça prend des proportions dans nos têtes vraiment importantes. Et de se rendre compte qu'il y a peut-être des endroits où on n'est pas compétent, mais il y a aussi des endroits où on est compétent et que c'est vraiment de l'entraide. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aide les autres, c'est entre nous, on peut s'aider et on peut vraiment avancer.
Alors, juste une petite question pour un petit peu conclure cette interview, si vous voulez bien. Est-ce que cet accompagnement à la parentalité, est-ce la seule activité du Centre de l'Aube ou est-ce qu'il y a d'autres volets, d'autres actions menées au Centre de l'Aube ?
Alors, le Centre de l'Aube est un centre d'accueil. Et donc, où sont développés d'autres stages, d'autres approches. Et UGREN développe, par exemple, une autre approche de la ménopause, de la sexualité, voilà, qui sont d'autres volets de son métier de gynécologue obstétricien, et où, là aussi, il a poussé les recherches dans cet accompagnement psychobiologique, quoi. Il y a les aspects extérieurs, physiques, et puis il y a toute la vie psychique qui va avec. Et quels sont les rendez-vous et les expériences qui nous sont proposées dans ces passages ? Voilà, la ménopause, c'est un cap que les femmes passent, mais que les hommes passent du coup à travers leur compagne. La sexualité, c'est très très vaste et elle va se décliner de façon différente à tous les âges de la vie. Et que là aussi, ceux qui ont envie d'être accompagnés et de se poser des questions, c'est un lieu où on peut venir le faire. Et puis, UGREN accueille aussi toute personne pour en séjour recul, on va dire. Quelqu'un qui a envie de faire un peu une pause dans sa vie, faire un peu un bilan de sa vie avant de prendre des décisions, avant de faire des choix. Et prendre le temps de se poser. Et donc, toutes les activités sont accessibles sur le site du Centre de l'Aube.
D'accord, on peut faire une retraite au Centre de l'Aube, alors ?
Oui, alors nous, on n'appelle pas ça retraite. On dit un séjour bilan ou un séjour recul. Mais ce sont des séjours recul, oui, accompagnés, avec des rendez-vous qui sont proposés. Et ensuite, chacun dispose un rendez-vous à 11h, un rendez-vous à 18h. Les repas en commun et entre, chacun est libre de ses activités. Oui.
Très bien. Jean Burdin et Christine Anneau, je vous remercie beaucoup d'être passés pour nous parler de cet accompagnement à l'accouchement, à la parentalité. Je rappelle que le 10 et 11 mai, au Centre de l'Aube, est organisé un week-end, comme tous les mois et demi, un week-end pour accompagner dans ces problématiques les parents qui le souhaitent ou les futurs parents. Je vous remercie d'être passés et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.